Parlons à Donald Cuccioletta des Nouvelles internationales. Bonjour, Donald.
Bonjour, Louis.
Alors, au Moyen-Orient, la violence reprend entre Israël et le Hamas, hein?
Oui, tout à fait. Pourtant, il y a deux semaines, on voulait avoir des pourparlers pour peut-être calmer la violence puis d'arriver à un cessez-le-feu. On entend ça souvent au Moyen-Orient. Mais là, il paraît que depuis deux jours, c'est la flambée de violence qui a augmenté. Hamas, bon, c'est Hamas qui dirige le Gaza. Donc, il a envoyé 70 roquettes dans les villages qui entourent finalement la frontière avec Israël.
Ouais.
Et évidemment, l'armée de l'air israélienne et l'armée israélienne ont répondu. Hein, c'est du tac au tac avec eux. Hein. Donc, il a envoyé les bombardements, les missiles, etc. Ils ont tué quelques personnes. Donc, pour l'instant, il dit que c'est encore tranquille, mais est-ce qu'ils vont reprendre la soi-disant possibilité de discuter pour les cessez-le-feu? Il semble, moi, je pense que pas, effectivement. Je pense qu'Israël maintient la ligne dure. À travers tout ça, par contre, Louis, je pense qu'il faut commencer à poser la question, qui parle pour les Palestiniens aujourd'hui?
Parce que
tout ça, ça vient de le fameux conflit entre la Palestine et Israël qui date depuis 1948. Donc, on voit un peu partout qu'il n'y a plus personne qui parle de lui, même pas aux Nations Unies, surtout pas le Conseil de sécurité, mais peut-être à l'Assemblée générale, mais c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui prennent des décisions concrètes sur le terrain, etc., puis qu'il y a une force, finalement, derrière les décisions prises. Donc, pour l'instant, il n'y a personne. Donc, la cause palestinienne est mise de côté, et je pense que c'est une des raisons pourquoi Hamas et même Hezbollah, qui sont soutenus par l'Iran, continuent, finalement, à faire qu'est-ce qu'ils font.
Ouais.
Parce que dans les faits, dans les milieux, on peut dire, les officines de la diplomatie, on n'en parle pas du tout.
Bon. Et pendant ce temps, en Angleterre, face au Brexit, les sociétés britanniques n'ont aucun plan d'action.
Oui, assez curieux, hein? Pourtant, l'Angleterre, les sociétés britanniques ont beaucoup, beaucoup d'investissements en Europe.
Ouais.
On le sait, tout ça. Puis, par ailleurs, c'est pas pour rien que la Bourse de Londres, c'est probablement la numéro un au monde, hein? Même plus que, finalement, Wall Street, parfois. Mm-hmm. Donc, c'est quoi l'affaire? J'ai l'impression que les sociétés britanniques regardent la façon que se déroulent les négociations entre Mme May et l'Europe. On sait que c'est rendu au mois de mars 2019, tout ça doit être réglé. Puis même si la Grande-Bretagne se retire, puis les négociations vont jusqu'au Brexit, et on sait que la position de Mme May, c'est de revenir avec une négociation pour avoir un traité de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et c'est peut-être pour ça, je pense, que les sociétés britanniques existent. Même si Mme May joue un peu son poste comme premier ministre là-dessus, on sait que depuis quelques mois, il y a des gens qui quittent le parti. Boris Johnson, qui a quitté le parti, la critique à tout bout de champ, qui fait que finalement, peut-être les sociétés britanniques regardent si jamais il y a une possibilité de revenir avec, suite au Brexit, avec, mettons, un traité de libre-échange, l'Angleterre, l'Europe. Et je pense que c'est ça, ultimement, que Mme May veut, puis probablement les sociétés britanniques aussi.
Mmh. Dans le Pacifique, maintenant, la Chine est devenue un pays incontournable, n'est-ce pas?
C'est incontournable, la Chine. On sait que la Chine a besoin d'une certaine hégémonie économique et commerciale en Asie, mais là, c'est même dans la région du Pacifique en entour. On sait que finalement, la Chine dit que c'est la mer de Chine leur appartient, puis on sait le différent là-dessus, la confrontation avec le Japon. Mais aussi, il faut dire que la Chine est devenu un peu le pays qui aide les autres pays dans la région. Pas simplement au niveau des ententes commerciales, mais aussi finalement de l'aide, etc. Donc, on sent que la Chine est en train de se positionner dans le Pacifique comme le seul interlocuteur, finalement, par l'ensemble des pays dans ce coin-là. Et ça, finalement, c'est la plateforme éventuellement pour devenir finalement sur la plateforme internationale. Quand les Chinois disent « Nous ne voulons pas devenir un pays impérialiste », mais dans les faits, économiquement, et commercialement, ils sont déjà là. Sur le plan militaire, ils ne sont pas. Mais avec la construction, puis finalement prendre position comme ils font dans la région du Pacifique et le continent asiatique, fait qu'on sent que c'est le tremplin vers évidemment de se prendre position sur l'ensemble de la planète.
Oui, puis il y a beaucoup de pays qui deviennent dépendants, en fait,
de la Chine. Absolument. On le voit déjà dans l'Indochine, effectivement. Même les accords avec l'Inde, le gouvernement indien regarde ça de très près parce qu'ils ne sont pas sûrs si, effectivement, c'est surtout les Chinois qui ont avantage.
Ben oui.
La porte de sortie avec la Russie, et c'est pour ça que je pense que l'administration Trump travaille beaucoup avec M. Poutine de ce côté-là, d'essayer de barrer cette porte de sortie, puis d'éloigner la Chine, oui. éloigner la Russie de la Chine. Fait que tout ça, c'est des enjeux pour ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Hein.
Mm-hmm.
Et ça, le 21e siècle, présentement. Oui.
Et bien, justement, puisqu'il est question de Poutine, il est en beau maudit contre Donald Trump là, et les nouvelles sanctions là, qui ont été imposées.
Ben oui, mais il n'y a rien à y comprendre hein, dans la politique de M. Trump. On le sait, on le dit à tous les jours, mais là, c'est vraiment rendu théâtre burlesque. Parce qu'on sait qu'il veut se rapprocher de M. Poutine. Il l'a fait une fois, ils se sont rencontrés. Ils veulent le faire encore une deuxième fois suite aux élections du mois de novembre. Mais en même temps, il y a des nouvelles sanctions.
Ouais, puis donc, là, les sanctions, ça découle du Novichok, le fameux poison là, mis au point par les Russes.
Exactement, c'est ça. Ouais. Fait que est-ce qu'il fait ça, M. Trump, pour apaiser les Européens, puis surtout son allié numéro un, il faut le dire, en Europe présentement, c'est la Grande-Bretagne.
Ouais.
Et effectivement, ils ont été les victimes de tout ça. Mm-hmm. Donc, peut-être. Mais en même temps, comment est-ce que M. Poutine peut prendre ça? Et d'une part, tu me rends compte, on se parle, on sort de là, supposément, on s'est rapproché, et bien, on a même séduler une deuxième rencontre après les élections du mois de novembre, puis là, tu m'imposes d'autres sanctions. Fait que c'est assez difficile de voir comment que cette relation-là peut se réchauffer, comme l'entend M. Trump. Mais puis on sait que M. Poutine veut aussi se rapprocher des États-Unis. Il sait de plus en plus que finalement, c'est les États-Unis qui sont toujours le pays hégémonique sur la planète, puis lui, doit se rapprocher de ce pays-là hégémonique pour justement lui-même se sentir important dans l'Est du monde aussi. Ouais. Mais c'est rendu du théâtre burlesque. On sait jamais. Puis, finalement, il doit y avoir des très bonnes analystes à Moscou pour tirer, finalement, voir quels sont les bénéfices de la Russie à travers tout ça, là, quand même.
Ouais.
Mais c'est dur à définir, évidemment.
Bon, hier, on a parlé brièvement de l'Argentine là, et du droit à l'avortement. Oui. Ça a été rejeté, finalement.
Oui, ça a été rejeté. Fait que j'avais dit que l'Église catholique est encore très puissante en Argentine, comme on avait parlé hier. Donc, ça veut dire que les coups de téléphone sont faits. Puis peut-être, on commence à penser, quand je lisais les journaux ce matin, La Nation, surtout de Buenos Aires, disait que finalement, peut-être le président a utilisé ça, sachant qu'il était pour être, que ça ne passerait pas au Sénat. Donc, il pouvait dire à ceux qui réclament l'avortement, le droit à l'avortement depuis une dizaine d'années, surtout les féministes, puis probablement une grande majorité des femmes aussi en Argentine, a dit, ben j'ai essayé. Et c'est pas moi qui a dit non, c'est le Sénat qui a dit non. Donc, c'est un peu le jeu politique qui s'est joué, mais malheureusement, mais il paraît que quand on lit les journaux là-bas, quand je lis La Nation ce matin, les gens disent non, on va continuer à se battre, on va l'avoir éventuellement, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils changent de gouvernement avant que ça puisse passer encore au Sénat, puis peut-être même à la Chambre des députés.
Oui, mais il y a aussi l'Église catholique là, qui est
L'Église catholique a énormément de puissance en Argentine.
Exact.
Il ne faut jamais oublier que le pape,
c'est
un argentin.
Ouais.
Puis on sait que l'Église catholique de Rome sont contre la question de l'avortement. Donc, il y a sûrement des téléphones qui sont faits, il y a des appuis qui se sont eus. Puis, il faut dire aussi, en général, en Amérique latine, l'Église catholique est très, très puissante aussi. Il y a des pays qui font des avancements sur le plan social, puis sur le plan de la question du droit de l'avortement. Mais effectivement, c'est très, très, très difficile, puisque l'Église catholique en Amérique du Sud en général, puis même l'Amérique latine, très, très, très fort. Très, très fort.
Merci, Donald. On se reparle demain.
Plaisir. Demain.
Au revoir. Donald Cuccioletta, qui nous parlait des nouvelles internationales.